Retour à questions d'actualité sur les ondes de Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Alors, comme chaque semaine, on vous propose un petit tour d'horizon de la semaine politique canadienne et québécoise, et cette fois-ci même européenne, figurez-vous. Vous en avez pour votre argent. Au menu, Mike Ward devant la Cour suprême, ça c'est donc à Ottawa. Les insurgés du Capitole de Washington seraient des gens peut-être plus normaux qu'on le dit, des frictions entre un auteur et son éditeur et les élections législatives en Catalogne, région du nord-est de l'Espagne, donc en Europe. Je parle de tout cela avec Nick Payne, analyste politique. Nick, bonjour.
Bonjour Jean-Philippe.
On a un bon 19 minutes pour dépiauter tous ces sujets-là. Il faudra... C'est pas beaucoup de temps. Il nous faudrait une heure parce que c'est très riche. Commençons par Mike Ward devant la Cour suprême pour une question de liberté d'expression.
Oui, quel épisode, n'est-ce pas? C'est un peu une sorte de point de convergence, de point de rencontre entre toutes sortes de mouvances et de questions et de débats qu'on a dans notre société depuis un moment, notamment ce qui a trait à la liberté d'expression, les mots qui passent, les personnalités, les personnes indignées, blessées, touchées, etc. Et à cet égard, Maître Julius Gray a eu une formule intéressante, il a dit, en plaidant bien sûr en faveur de Mike Ward, il a dit « Il n'existe pas de droit à ne pas être offensé ». Évidemment, parce que c'est ce que plaide la famille de Jérémy Gabriel. On dit « Bon, il a été touché, vexé, blessé, bouleversé dans sa chair. Il a même... penser au suicide, il a vécu...
Et ça s'est pas arrivé qu'une seule fois, c'était dans le cadre d'une tournée de l'humoriste. Je veux dire, c'est que plusieurs soirées, il y a eu le même marteau sur le clou.
Oui, c'est ça. Bon, après, il faut savoir de qui on parle. Mike Ward, c'est un humoriste qui fait dans l'humour, les anglophones appellent ça l'humour trash. Donc, c'est vraiment...
ordurier, quoi.
C'est talo, ordurier, ça le principe même de la chose est de flirter avec la ligne de ce qui peut se faire et ce qui ne peut pas se faire. Mais ça devrait être. Et c'est ça, bien sûr, c'est un personnage. Hein. Souvent, c'est pas Mike Ward lui-même, le citoyen ordinaire, qui monte sur une scène et qui dit « Je pense que Jérémy Gabriel est comme ceci et comme cela ». Non, c'est un personnage, c'est une caricature. Un peu comme quand Yvon Deschamps faisait « Nigger Black », qui est un sketch qui visait à dénoncer le racisme, pour lequel, néanmoins, M. Deschamps est aujourd'hui pointé du doigt à l'occasion par les militants antiracistes. Mais je ne veux pas... Le parallèle ne va pas plus loin que ça. Je ne veux pas mettre les deux sur le même pied. Là.
J'y pense, moi, Nick Payne. C'est une question que je pose. Je veux dire, si... la personne... Gabriel, donc, a un handicap... Il a été visé par cet humour de Mike Ward, ça l'a blessé, etc. Bon, mais lui, ça peut être quelqu'un de couleur, quelqu'un de pas couleur, quelqu'un d'hétéro, quelqu'un d'homo, un homme, une femme. Ça peut être... Si on dit oui au droit de ne pas être... C'est la formule de Julius Gray, qu'il n'y a pas de droit à ne pas être offensé. Si on donne le feu vert à la requête de Gabriel, je veux dire, c'est la porte ouverte à tout le reste.
Ah, mais bien sûr, et on sait déjà, vous et moi, qu'elle est déjà entrouverte, cette porte, du moins dans le débat public. Hein.
Voilà.
Plusieurs, notamment dans l'université, disent oui, la liberté d'expression, mais il y a des limites, il ne faut pas offenser les uns et les autres, et il y a des mots qui sont chargés. Bon, vous voyez, mais moi, je m'étonne quand même de la légèreté avec laquelle on envisage qu'il puisse y avoir condamnation à l'endroit de Ward. Si ordurier son propos a-t-il été, à mon point de vue, ce n'est pas là, c'est pas la bonne question à poser. Alors, on pourrait tout à fait aller sur la place publique et dire Mike Ward est une ordure, il a fait une chose inacceptable, c'est épouvantable, ce qu'il a fait à ce jeune homme à l'époque, dont on sait qu'il est affligé par un handicap là, qui lui donne une apparence particulière. C'est de ça dont se moquait Ward dans son sketch, notamment. Mais c'est parfait qu'on mette Mike Ward au banc, si vous voulez, du débat public. Pour ça, je n'ai aucun problème avec ça. Si on a le droit de s'exprimer, on a le droit dans tous les sens. Hein, les gens
on a subi les conséquences, oui.
Mais après, est-ce qu'il faut judiciariser ça et créer un précédent, créer un droit et dire, ben voilà, bon, quand... Alors, cette fois-ci, on joue sur l'idée que c'était presque un enfant à l'époque du sketch en question. Jérémy Gabriel avait 12 ou 13 ans. Il a été très, très violemment heurté par ce propos. Bref, on joue sur cette émotion. Évidemment, c'est terrible quand on pense à ça. Là, bien sûr, on voudrait pas que ça arrive à nos enfants non plus, puis on aura à prendre dans nos bras et de le consoler. Cependant, là, le débat est ailleurs. Il s'agit ici de décider si on va empêcher des humoristes de faire des blagues, aussi déplacées soient-elles, et leur donner des amendes lorsqu'ils le font, et éventuellement faire de la prison s'ils ne paient pas l'amende. Enfin, vous voyez, on marche un peu
bien.
Sur la tête. On devrait même pas se poser cette question-là, à mon point de vue.
Alors écoutez, le débat n'est pas clos, mais il va peut-être rebondir quand on aura le jugement de la Cour suprême. On va certainement en reparler, Nick Payne. Passons à l'autre sujet. Il y a une étude...
Si vous me permettez, juste, il y a un élément important sur lequel je vais absolument vous dire un mot seulement, c'est que on est rendu à la Cour suprême, mais on est d'abord passé par le tribunal des droits de la personne.
Oui.
Ce n'est pas anodin, ce processus. C'est parce que ce type de tribunal a des critères beaucoup plus bas pour obtenir une condamnation, finalement. C'est par ce genre de tribunal que sont passés notamment certains intégristes religieux pour faire valoir qu'on les malmenait parce que, bon, ceci, cela, la loi 21 et le reste, les critiques à l'endroit de certaines religions. Alors, vous voyez, on ouvre aussi une boîte de Pandore de ce point de vue-là. Là. C'est-à-dire que on ne sera plus seulement dans les poursuites pour diffamation ou atteinte à la réputation. Là, on est dans la discrimination. Est-ce que Mike Ward a discriminé le jeune Jérémy Gabriel? Encore une fois, qu'on se pose même cette question, moi, me jette en bas de ma chaise. Comment peut-on discriminer en prononçant des mots sur une scène pour faire des blagues?
Parce qu'on est de plus en plus dans le ressenti. Si je me sens affligé, si je me sens insulté, alors il y a toute la chaîne de réactions, etc. On sacralise le ressenti, je veux dire. Si
le ressenti devient un fait.
Voilà, le ressenti devient un fait neutre, objectivable.
Alors si je vous fais sentir quelque chose, vous, je viens de poser un geste direct comme si je faisais une discrimination. C'est ce que c'est un peu ce que plaide... le camp Gabriel.
Et on oublie aussi que la personne blessée, elle est blessable.
En effet.
Ça, je vous amène au Capitole de Washington le 7 janvier dernier, 6 ou 7, il y a eu des insurgés, etc. Une étude de l'Université de Chicago, c'est le Chicago Project on Security and Threats, le projet de Chicago sur la sécurité et les menaces donc, de cette université de Chicago. Il y a deux chercheurs, Kevin Ruby et Robert Pape, ont analysé le profil de 213 personnes accusées par le fédéral depuis les attaques, donc du 6 janvier, disais-je. Et on a une surprise, c'est pas que des délinquants.
En effet, en tout cas, ça ne me surprend pas, mais on comprend que ça a surpris un certain nombre de personnes, dont peut-être ces chercheurs eux-mêmes aux États-Unis. J'imagine qu'on voudrait croire qu'il s'agissait des suspects habituels, les fameux incels, dont on parle parfois, les célibataires involontaires, ces jeunes hommes blancs fâchés, souvent
droite,
un peu désœuvrés, chômeurs, frustrés parce qu'ils pensent que telle ou telle minorité leur vole leur emploi et que la société fait autre courbette à leur endroit, et le reste. Bref, l'extrême droite à l'américaine en disait, mais non, ce sont, comme cette étude le montre, parfois même des avocats, des médecins, des dentistes, des hommes d'affaires, des gens d'affaires, ils sont souvent aisés. Ils ont beaucoup à
faire. Il n'y a pas que des hommes, il y a des femmes là-dedans aussi.
Il y a des femmes, j'employais le mot homme au sens...
L'homme qui embrasse, le masculin qui embrasse le féminin, n'est-ce pas?
L'homme qui n'est plus à la mode. c'est monsieur tout le monde, ou en tout cas monsieur tout le monde. Disons que c'est l'électeur républicain. C'est une assez belle brochette représentative de l'électorat républicain. Ce que ça nous dit, ça nous démontre en fait la culpabilité de Donald Trump. À partir du moment où vous êtes profondément convaincu que votre leader politique a fait l'objet d'une fraude électorale massive, unique dans l'histoire, un scandale innommable, Ben, vous êtes prêt à tout, possiblement. Vous pensez que c'est légitime de vous rendre au Capitole, de faire de la casse, d'aller jusqu'à menacer des élus, vous introduire par effraction dans l'enceinte. Voilà, parce que la cause le justifie. Si on pensait, vous et moi, Jean-Philippe, qu'une telle chose arrivait vraiment là, à l'Assemblée nationale, par exemple, peut-être que nous irions aussi si nous avions la conviction d'une usurpation de démocratie d'une telle ampleur. Monsieur Trump a employé des mots extrêmement explicites et radicaux. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il a eu un ascendant sur beaucoup plus large que quelques pignoufs trop pelés et deux tondus.
Mais quand on lit les médias en général, ce sont la plupart sont des délinquants qui sont allés vomir au Capitole. Cette étude, la presse en a parlé, j'en ai pas vu mention ailleurs, et puis ça a fait pouf, ça fait comme un pétard mouillé. On n'en parle plus, il me semble. J'ai l'impression que dans les médias, on a tendance à... On gobe l'histoire que les électeurs de Trump sont des deux de pique, déclassés, ça s'arrête là.
En effet, vous aviez eu, ça me rappelle, en France récemment, il y a 4 ou 5 ans, un prof, un universitaire réputé qui avait fait une étude sur les électeurs du Front National.
Oui, oui.
Et on les décrivait comme des gens carencés, avec des problèmes psychologiques, peu d'éducation.
Tout à fait.
C'était vraiment la recette pour nourrir l'électorat du Front National, au fond.
Évidemment, ils ont eux-mêmes jeté de l'huile sur le feu, en toute innocence.
Alors, il se produit la même chose ici, aux États-Unis, devrais-je dire. On aime à penser que ce sont des gens en colère, peu instruits, analphabètes, et le reste, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus large que ça. Ce n'est pas non plus nécessairement le bon peuple ordinaire. Ce sont souvent des gens assez aisés qui votent Trump à cause du...
Et ils ont une réflexion aussi.
Oui, mais c'est aussi pour des questions d'argent, les impôts sont des coûts d'affaires, bon, tout ça, il y a ça aussi là, dans le cocktail, si on veut. Mais en effet, on va se dire, Jean-Philippe, au Québec et au Canada, les médias sont presque, dans l'ensemble, des relais du Parti démocrate américain. C'est assez stupéfiant de voir le parti pris, malgré toute la bêtise de M. Trump, je ne veux pas la contester, je le pense moi-même. Néanmoins, on évalue mal, à mon point de vue, généralement, de quoi est constitué son électorat et qu'est-ce qui nourrit, quels sont les ressorts du Trumpisme. On comprend que ce mouvement politique s'est rabattu sur ce qu'il avait sous la main. C'est malheureusement un leader pervers, narcissique, un peu crackpot, mais ça prend quelqu'un d'autre.
Pour qu'il y ait des mouvements telluriques aussi profonds, ça prend souvent un délinquant pour entamer un changement ou un changement de direction.
Oui, cette espèce de personnage sans aucune autocensure.
Tout à fait. Sans inhibition.
Insensible. Oui, voilà. Alors, peut-être que l'un ne va pas sans l'autre, en effet. Mais bref, vous avez raison. Ce n'est pas ce que le commentateur moyen ici veut voir. Non, évidemment.
Ça semble. C'est évident, Nick Payne. Les éditeurs et la relation parfois tumultueuse entre un écrivain et son éditeur, il y a eu toute une histoire récemment entre un psychanalyste et écrivain, Maxime-Olivier Moutier, et son éditeur, je crois que c'était XYZ, je pense, non? Ça fait parler de ça, quoi.
Ça a fait du bruit, notamment dans le milieu littéraire. Hein? Personne aime gérer ce genre de trucs. Ça nous rappelait un peu la crise là, autour de l'Association des libraires qui avait censuré M. Legault parce qu'il recommandait la lecture d'un livre de Mathieu Bock-Côté, entre autres. Mais bon, alors, Maxime-Olivier Moutier s'est exprimé sur sa page Facebook en disant « Mon livre devait être publié le 28 février ou avril, je ne veux pas me tromper, mais bref, bientôt. Ouais. »
En avril.
Il nous montrait la page couverture de l'ouvrage. Il explique en même temps, il dit « Je ne suis pas une victime. Je ne veux simplement pas participer à cette censure qui marque notre époque. Je veux que mes enfants soient fiers de leur père. » C'était ça son propos. Alors, évidemment, on s'est tout de suite précipité pour dire, dans le milieu du livre, là, vous savez, c'est une chicane, comme on en voit souvent entre l'auteur et l'éditeur. Pour nous, pour nos auditeurs qui seraient moins familiers avec ce processus, on s'en rend pas toujours compte, même quand on est un lecteur assidu. Mais l'auteur ne travaille pas seul quand s'en faut. En fait, il joue au ping-pong comme ça pendant plusieurs mois, pendant une longue période, avec un éditeur qui va lui dire ouais. Voici, tu devrais élaguer ici, couper ce passage, préciser telle chose. Il y a un peu de longueur là. Bon.
Mais là, est-ce qu'il y a des choix éditoriaux, il y a des choix stylistiques, évidemment, mais il y a aussi des choix. XYZ, j'avais lu quelque part, avait signé un pacte de respect et d'inclusivité. Alors, dès que je vois le mot inclusivité, moi, mes cheveux se dressent sur la tête. J'imagine que, évidemment, Maxime-Olivier Moutier, qui est un spécialiste de la psychanalyse lacanienne, paraît-il, je vois mal un lacanien rentrer dans le catéchisme inclusivoïde, inclusivâtre, inclusiviliste.
Inclusiviste, on pourrait dire, comme diversitariste.
Voilà, c'est plus simple.
C'est vraiment l'inclusivité comme prémisse, comme objet, finalement. Ouais. Mais donc, non, vous avez raison. Alors, c'est ça, c'est là que le bas blesse, c'est qu'on veut bien penser qu'il s'agit d'un auteur, comme on en a déjà vu, un peu prima donna, qui se fâche avec son éditeur, qui dit « bon, ben tant pis, je remballe mes pénates et je m'en vais ailleurs ». Mais à l'époque dans laquelle nous sommes, et à partir d'indices comme celui que vous venez d'évoquer, on peut quand même, et aussi à partir de ce que dit Moutier lui-même. Moutier dit « j'ai travaillé avec mon éditeur pendant plusieurs années, c'était Tristan Malavoie, l'éditeur en question oui. ». Mais à la dernière minute, quelqu'un en haut lieu s'est énervé et a eu peur de ce qu'on écrivait dans ce livre et nous a demandé de retirer des passages que je ne suis pas à l'aise de retirer. Alors, voyez, ça ressemble beaucoup à une peur, un réflexe motivé par la rectitude politique. Et on n'a pas voulu, encore une fois, perdre la peine à quelqu'un, insulter, on ne sait qui, ou brusquer les bonnes manières de la diversité et de l'inclusion.
Pardonnez-moi, Nick Payne. Avez-vous lu le roman Les demi-civilisés de Harvey? Des
non.
années. C'est autour de la Seconde Guerre mondiale. Ça avait été. Le cardinal Villeneuve, primat du Canada, avait accusé. Avait lancé un anathème ou un truc comme ça, disant que quiconque lirait ce livre serait en état de péché mortel. Quiconque posséderait le livre serait en état de péché également. Et faire circuler le bouquin. Enfin bref, Jean-Charles Harvey a eu toutes les misères du monde à se faire lire. C'est un très bon roman qui décrit le lien entre le clergé et les nationalistes québécois de l'époque. J'ai l'impression qu'on recommence cette époque-là, mais ce n'est pas l'Église catholique qui fait ça. Elle n'est pas en mesure de le faire. Mais il y a d'autres églises maintenant, ou d'autres clergés qui lancent des anathèmes et des exclusions mortelles.
C'est un autre clergé, absolument. Maintenant, il y a un problème ici que Moutier refuse d'aller plus loin. Il refuse de nous montrer les passages en question, de nous donner davantage, de refuser les demandes d'entrevue. Depuis, d'ailleurs, nous avons, j'ai voulu l'inviter à l'émission la semaine dernière et il a poliment décliné. Et donc, on ne saura jamais.
Moi aussi, figurez-vous.
La parole de l'autre, il n'est pas impossible. Que ce soit effectivement un auteur qui s'est fait un coup de pub en se chicanant avec son éditeur. Mais disons que l'époque étant ce qu'elle est, les apparences étant ce qu'elles sont, on peut s'imaginer que... Oh, regardez, c'est peut-être un peu des deux.
C'est peut-être un peu des deux, effectivement. En 1 minute et 15 secondes, voulez-vous parler de la Catalogne qui vient de réélire les indépendantistes en plusieurs familles et ils ont trois députés de plus dans un Parlement qui fait 130 et 135 députés. Ils ont la majorité absolue.
Ils ont un système proportionnel là-bas, donc ce sont plusieurs partis indépendantistes qui forment la coalition qui a remporté l'élection. Cependant, le parti qui arrive en premier, qui a une pluralité de votes, c'est un parti pro-espagnol. Mais c'est un parti, c'est-à-dire c'est l'espèce de branche catalane du parti socialiste espagnol, si je ne m'abuse. Il reste que la majorité des voix est allée à des partis indépendantistes. Ce que cette situation m'inspire, c'est la même chose qu'à partir de l'Écosse et du Québec. Ce sont des indépendantistes qui se professionnalisent, qui se normalisent, qui s'incrustent au pouvoir, qui y prennent goût et qui ne réalisent jamais leur objectif premier. C'est vraiment, ça ressemble beaucoup à nous. Je leur souhaite, s'ils sont vraiment motivés, de ne pas faire comme les indépendantistes québécois.
Nick Payne, merci infiniment pour tous ces propos. On vous retrouve dans une semaine.
Mais avec plaisir. Si la censure ne nous en empêche pas.
Comment?
Oui, à moins qu'il y ait censure, sait-on jamais.
Bon, on parlera anglais ou on parlera un mandarin, ça ira très bien.
Oui, parfait.
Apprenez votre mandarin dans la semaine.
Comptez là-dessus.
Allez, Nick, moi aussi, je vais faire la même chose. Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, la nouvelle politique étrangère états-unienne à la régie Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain. Et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio-VM.